Consonance. De la page à la voix. Porte-plume. Lecture libre. Consonance. Correspondance 4. Un texte de Thibaut Dubreuil, sur une lecture d'Anne Cléron, du cours Charmet, et Stéphane Padovani. La correspondance qui va être lue ici a été retrouvée dans les archives d'un écrivain, alors que, du temps où je brocantais un peu, j'avais vidé sa maison. Émile Poirier est un auteur oublié. On peut tout juste citer son roman, L'Abécédaire, sorti en 1931, et curieusement réédité en 1947 comme son seul fait d'armes. Sans méchanceté aucune, ce texte a mal vieilli. Toutefois, dans les années 20 et 30, Émile Poirier a rencontré un certain succès, si on en croit la presse de cette époque, avec une dizaine de romans qui se sont bien vendus. Il est mort en 1962. Et c'est son arrière-petite-fille qui m'a contacté. Elle voulait transformer sa maison en gîte et souhaitait avoir une estimation de tout ce bazar, comme elle me l'avait dit au téléphone. Rien ne l'intéressait vraiment, à part quelques photos. Et c'est en fouillant dans la benne qu'elle avait fait venir que j'ai retrouvé ces lettres. Émile Poirier avait eu la bonne idée de faire des copies carbone de sa correspondance. Au milieu du fatras, entre les chaises de paille vermoulues et de la vaisselle ébréchée, il n'y avait rien de bien intéressant que cette chemise et un exemplaire dédicacé du Voyage au bout de la nuit de Céline que j'ai fourré dans ma poche. Quand j'ai demandé à l'héritière l'autorisation de faire une lecture radiophonique de la correspondance de son aïeul, elle a exigé d'en prendre connaissance avant. Puis, comme une faveur, m'a demandé si elle pouvait en assurer la lecture. Ce que j'ai accepté.
Orléans, le 8 mars 1922. Cher maître, c'est après la lecture de La Rose de Damas que je me suis décidée à vous écrire. Votre roman m'a bouleversée et a remué en moi des choses auxquelles j'avais renoncé. C'est donc tout d'abord pour vous remercier que je prends la plume. Merci pour cette histoire. Merci pour ce texte qui, au-delà de l'amour insensé que se portent Yves et Marie, atteint l'universel de la relation entre deux êtres dans un flot qui n'est jamais fin, jamais convenu, et qui se garde de tout. Je ne voudrais pas me faire redondante de ce que la presse a déjà écrit à propos de la rose, je ne m'estime pas qualifiée et me sens presque honteuse à exposer à nu mes pensées, mon ressenti et comment ce livre... Je le garde en moi comme jamais un autre livre ne m'a parlé avant. J'ai eu l'impression de lire une histoire qui me serait arrivée. Mon identification à Marie est totale. Cette femme, c'est moi. Celle que je fus ou que je serai un jour. Comme un diseur de bonne aventure qui m'aurait prédit ma vie, ce roman, c'est ce que je veux être à présent. Je me doute que des lettres d'admirateurs et plus certainement d'admiratrices doivent vous parvenir par centaines et vous n'avez pas pris soin de garder votre adresse secrète. C'est pour cela que je ne passe pas par votre éditeur qui risque de confisquer cette feuille que je plie à présent pour en faire un avion que je lance dans les airs en espérant qu'il se pose au bon endroit. Et même si je sais que j'ai peu de chances d'obtenir de vous une réponse, comme les avions se perdent en mer, je tente ma chance, car je ne peux garder tout cela pour moi et je n'ai personne d'autre que vous à qui le dire. Jeanne le chat.
Paris, le 31 mars 1922. Ma chère Jeanne, votre lettre m'a touchée, soyez-en certaine, et je vous réponds du plus vite que je peux. Oui, des lettres, j'en reçois beaucoup, et mon éditeur les filtre le plus souvent. C'est nécessaire. Entre les déclarations péremptoires, les demandes en mariage, les lettres d'injure, celles sans intérêt, d'autres menaçantes, comme celle que j'ai récupérée il y a 8 jours, d'un individu, probablement un homme, et qui a refusé de signer. Il me reproche, dans un français approximatif, d'avoir révélé des choses que je suis censé ignorer, vu que ce sont des secrets dans sa famille. À la rédaction, on en a bien ri, ces hurluberlus sont fréquents et nous n'y portons pas beaucoup d'attention. Vous, c'est différent. Tout d'abord, ne m'appelez pas maître. C'est vieux jeu et je ne suis pas vieux. Vous pouvez me donner du Émile et nous maintiendrons un vouvoiement si vous voulez bien. Je peux comprendre que ce personnage si fort qu'est Marie vous ait attiré au point que vous vous confondiez avec elle. Mais gardez-vous de toute forme d'identification. Ce n'est qu'un roman. Et votre vie, elle, est bien réelle. Les exploits de Marie sont inventés. Même s'il m'a fallu lire beaucoup pour que l'intrigue soit plausible. Et je voulais dans ce texte que ce qui est dévolu par nature à l'homme échoua de manière presque inopinée à la femme. Et puis ne grandissez pas trop ce roman qui est loin d'aller chercher le moindre prix. Je connais ma mesure et mes failles, et ne mise pas plus sur les jeux de hasard que sur une quelconque notoriété, même de mon vivant. Mais j'apprécie que vous ayez aimé ces personnages et que le corps que je leur ai donné vous ait saisi comme autant de bras, ceux de Marie avant tout. Un auteur s'inspire souvent du monde qui l'entoure. Parlez-moi de vous. Et qui sait, vous prendrez peut-être vie dans mon prochain roman. À vous lire, Émile.
Orléans, le 20 avril 1922. Cher Émile, je n'escomptais pas de réponse de votre part, et quand j'ai trouvé votre lettre dans ma boîte, mon cœur a sauté. Je m'attendais à tout sauf à ces propos convenus, dont j'ai l'impression qu'ils ont été écrits maintes et maintes fois pour d'autres, pas seulement des femmes, dont on pense souvent que le romantisme est une seconde nature, comme on fait des bouquets de fleurs et torcher les gamins, et mais aussi pour des hommes. Quelle déception! Je vous portais bien haut, et me voilà à lire une quelconque gazette de province dont le rédacteur se contenterait de recopier son article sur la foire au jambon qu'il a fait l'année précédente, et même l'année d'avant. Je ne m'excuse pas de vous choquer, et comme je connais votre adresse, je sais bien que vous lirez ces mots. Alors je vous en conjure, ne faites pas comme tous les autres. Ces littérateurs qui font des livres au maître comme on taille du coupon dans les merceries. Ce que vous écrivez vous implique, au-delà même de ce que vous imaginez. Vos livres relèvent de votre responsabilité, vous êtes tenu d'en assumer les propos et aussi les conséquences. Ne me prenez pas pour une oie blanche, une écervelée qui rêve dans sa chambrette en attendant un prince charmant qui la fera vivre dans un roman. Votre lettre manque de corps, de poils, et pour ainsi dire de couilles. On la dirait passer entre les mains de la censure. Considérez-moi comme votre égale et écrivez, bon sang. Écrivez-moi vraiment. Jeanne.
Paris, le 3 juin 1922. Il faut vraiment que vous soyez une femme et que je vous ai trouvé une forme de sympathie naïve, ou que je sois prodigieusement agacé que je n'arrive plus à écrire, tant vos propos me font lever la nuit, que je réponde à votre lettre. Mais pour qui vous prenez-vous? Qu'avez-vous produit de si exceptionnel que vous puissiez vous exprimer de la sorte? Recevez-vous des lettres? Avez-vous des milliers de lecteurs? Parle-t-on de vous dans les journaux? À part vos voisins, qui vous reconnaît dans la rue? Je vous trouve bien insolente, chère mademoiselle, pour venir ainsi remettre en cause la sincérité non feinte d'un homme que vous admirez, au point de lui livrer vos secrets les plus intimes. Ou alors, est-ce vous qui n'assumez pas vos propos? Mais qu'attendiez-vous de moi? De faire comme cette mode autrichienne qui consiste à venir parler avec un inconnu afin qu'il vous délivre de vos problèmes? Non, je ne suis pas de cela. Et je pensais pouvoir entretenir avec vous une correspondance qui puisse déboucher sur un ailleurs. C'est ce que j'avais senti dans votre première lettre. Un petit rien, un quelque chose qui me disait qu'il fallait que je vous réponde, car là je devinais une porte. Assurément, je me suis trompé. Vous voudriez me parler en égal? Bon, soit, hein. Je vous écoute. Mais si c'est pour amuser mes digestions avec vos fadaises, hein, ou pire, les contrarier avec vos gros mots, non. Il est inutile de poursuivre. Émile.
Dans la lettre suivante, Émile Poirier fait mention d'un mot d'excuse. Mais je ne l'ai pas retrouvé. Et peu importe, après tout.
Paris, le 20 septembre 1922. Chère Jeanne, nous voilà donc enfin sur un terrain commun. Votre lettre d'excuse était inutile puisque les nombreux feuillets que vous avez joints vous avaient absoute à leur lecture. Si j'avais juste une seconde considéré vos propos comme insultants, je n'y aurais pas répondu. Et pire encore, je serais même passé voir la police pour me plaindre. Effectivement, vous avez mon adresse et je m'amuse presque à vous imaginer, rôdant alentour au soir, quand les chats s'en viennent chercher leur pitance dans les poubelles. Orléans n'est pas si loin par le train et le chat est bien votre nom. À moins que vous n'usiez d'un pseudonyme. N'y voyez pas malice. Je vous imagine mal dans une gouttière et encore moins dans une poubelle. Mais vous n'appréciez rien tant que le rude et le râpeux, n'est-ce pas? Alors, j'ai bien lu le début de ce roman car c'en est un, n'est-ce pas? Que vous m'avez fait parvenir. L'histoire semble bien engagée. On suit aisément cette femme de la bourgeoisie qui, assurément, n'est pas vous. Mon lectorat ne vient pas des beaux quartiers. Et des rares gens bien mis que j'ai pu rencontrer, je n'ai reçu que des sourires polis. On me préfère Charles de la Hussée ou Gontran des Essières. Ce dernier réalisant l'exploit d'être prodigieusement ennuyeux et d'un conservatisme hermaphrodite. Je n'écris que pour les autres. Les mal-nés, les embouchés, ceux pour qui le destin a choisi dès la naissance les voies de traverse, les chemins creux, le labeur sans horizon des fins de semaine, parfois des fins de journée, et qui trouvent un peu de chaleur dans mes pages, quitte à les brûler quand manque le charbon. Mais j'aime bien votre personnage qui se débat dans ce monde de convenances qui lui sied en partie. Puisqu'on se doute qu'elle va s'appuyer dessus pour le quitter, ou du moins le façonner pour se le rendre vivable. Cette Clarisse est intrigante, pas au sens où elle intrigue dans son milieu, mais elle semble cacher son jeu. C'est bien cela. Gardez-vous toutefois d'en faire un roman bourgeois. C'est pénible à écrire, je vous l'assure, et plus encore à lire. J'attends la suite, avec impatience. Émile.
Orléans, le 12 octobre 1922. Mon cher Émile, vous savez écrire, assurément. Vous savez lire aussi. Mais pas comme je l'espérais. Pas entre mes lignes. Ce n'est pas de moi dont il faut parler, ni de ce texte qui ressemble à tant d'autres et dont j'attends la fin sans grande impatience, à vrai dire. Les pages ne seront pas assez nombreuses ni pour caler ma vieille armoire, ni pour boucher la fente entre la fenêtre et le mur. Écrire, c'est bien beau, ça flatte, ça soulage parfois. Pour certains, ça les nourrit bien. Mais jamais écrire ne comblera autant que de lire. Même si vous pensez que lire la prose de vos concurrents plus chanceux n'est pas une sinécure, beaucoup semblent combler à le faire, souvent pour suivre une mode, c'est-à-dire tout le monde. On peut lire par plaisir, plus certainement pour des mauvaises raisons, et il n'y a pas de honte à cela. Le sujet qui nous occupe n'est donc pas celui-là. Et je trouve que vous tournez autour du pot, comme une petite bille qui ne trouverait pas le fond du trou. De la forme de vos romans, d'autres parlent mieux que moi, mais du fond, vous ne savez rien. Comme à peu près tous les auteurs d'ailleurs. Vous ignorez vos lecteurs. Pourtant, ce sont eux qui vous font. Certes, on vous bise dans les salons, on vous serre la main, on vous donne du « Oh, monsieur l'écrivain !» On vous chatoie et par ici une dédicace, un entretien avec une journaliste. Mais que savez-vous réellement de ceux qui vous lisent et que vous façonnez à chaque parution? Vous transformez le monde comme ces peintres démodés, si tant est qu'ils furent un jour à la mode, et qui peignaient par petites touches sur leur toile, le nez dedans. Vous ne voyez rien. Et il vous faudrait prendre un tel recul pour en embrasser l'ensemble, que votre bureau, votre appartement même, que dis-je, votre quartier et Paris tout entier n'y suffirait pas. Je vous joins quand même la suite de mes écrivailles. Quelques feuillets maladifs dont vous pourrez utiliser les marges afin de me répondre vraiment. Jeanne.
Écoute, Jeanne. Écoute vraiment ce que j'ai à te dire. La rose de Damas est une illusion. Comme toutes les illusions, elle se perdra. Mais en attendant, il te faut vivre en croyant qu'elle est réelle. Au fond, qu'elle te déçoive ou te contente que tu la trouves enfin ou pas, importe peu. Seul le fait d'y croire est important. L'illusion prenant alors la forme d'un chemin. Ne t'imagine pas Stevenson et son âne, les lignes de train et leur rectitude, les ponts et les bateaux vapeurs sillonnant la mer Noire. Suis le sens du vent, sa douceur sur ta peau. Et la rotation du soleil immobile. Tu partiras seul, avec comme unique guide l'étincelle d'un briquet qui éclairera ton matin brumeux et dont l'étoupe te réchauffera la nuit. La rose de Damas ne se cultive pas, elle pousse, c'est tout. Et rien n'indique au botaniste que tu veux devenir, l'altitude où on la trouve, le climat qui prévaut et la saison de son éclosion, peu importe sa forme aussi. Ni si tu la trouveras ouverte ou en bouton, fanée ou sublimée ou bien sèche, coincée entre deux pages d'un livre d'heures ou d'un recueil de poèmes arabes oublié dans une bibliothèque antique. Bien à toi si elle se présente au détour d'une sente, là où tu t'y attendras le moins. Poussant à l'ombre d'un palmier sur une place de Carthage l'ancienne, à la sortie d'un souk d'Égypte, gardé par un lansquenet assoupi d'avoir trop bu de ce vin de figue qui enivre si vite. Ou mieux encore, aux frontières de la Perse, quand on ne distingue plus un fil noir d'un fil blanc. Les illusions se perdent, je te l'ai dit, immanquablement. Mais à rester sur les lignes fixes, ce sont elles qui te perdent. Souvent on remet, on décale, on envisage, on proroge. Et quand on sent qu'il faut y aller, c'est déjà trop tard. La vie t'a pris à la gorge, elle a serré le garrot. D'abord pour anesthésier le sang qui coule, ensuite pour t'étouffer. te garder dans ce confort qui n'est que par l'illusion qu'il procure et qui, lui, est bien réel. Comprends-tu ça? L'illusion se perd si tu la suis, mais si tu refuses de la réaliser, elle te meurt. Lentement. Entre les deux, c'est ce qu'on appelle la vie. Marie, par la voix d'Émile.
Orléans, le 15 décembre 1922. Marie, enfin. J'ai bien cru que jamais tu ne sortirais de ce roman. L'histoire ne dit rien de la vie que tu mènes avec Yves et, peu importe au fond, si tu l'as comblée. Le froid me saisit soudain, un bruit assourdissant comme si un grand silence se faisait en moi et que, par-delà les pages, la rose de Damas prenait des formes indistinctes, toutes plus séduisantes et repoussantes les unes que les autres. Et je me dis que tout partir d'ici serait une sage folie. Un départ comme une arrivée et un sable comme une eau salée sur lequel mes pas timides avanceraient, avec l'assurance d'un but. Seul le chemin, ai-je bien compris dans ta lettre. Comme toi, qui lassé d'attendre que l'homme que tu aimes ne vienne déposer à tes pieds la rose de Damas, tu es parti la chercher toi-même. Le roman ne dit rien et c'est heureux. Il ne dit rien si, une fois la rose trouvée, tu l'as finalement déposée devant ton homme, comme la promesse tenue que tu t'étais faite sans rien lui en dire. Ou si, ayant attendu en vain, tu l'as mise entre tes lèvres, que les épines te percent les gencives et ainsi de boire ton propre sang et la mâcher longuement comme une chique, une épice, cette rose, avant de rentrer dans ton pays ou de poursuivre ta route, une autre illusion, ailleurs ou plus simplement un havre trouvé là, à même le sol, une couche pour tes nuits fatiguées, ton visage tourné vers les étoiles. Je vais me laisser la nuit. Dit-on de celle-là qu'elle porte conseil. Personne n'a jamais dit qui portait le fameux conseil. Quelle estafette, quel postier ailé. Ou alors, un rêve. Un doigt posé sur la joue. Une main caressant le dos. À demain, j'en saurai plus. Et promis, je te dirai. Jeanne.
Paris, le 10 janvier 1923. Ma chère Jeanne, vous voici comblée, vous avez votre réponse. Je n'avais pas saisi ce que vous attendiez de moi, mais je me refuse à donner des suites à mes romans. À un moment, il faut bien conclure. Vous ne croyez pas? Comme il faut conclure à présent cette correspondance entre vous et moi, qui me semble avoir atteint son but. Toutefois, je ne saurais vous lâcher la main dans ce grand bassin où vous avez plongé la tête la première. Vous voilà en littérature, ma chère Jeanne, et de jolie façon. Pas seulement cette lettre très poétique, bien que déconcertante, que vous m'avez adressée, mais surtout la suite de votre roman. Celui-ci est fort engagé à présent, vous ne pouvez renoncer. Il faut aller au but et poursuivre en développant vos personnages. Je commence par ce précepteur écossais très britannique dans son excentricité. Il faudra, il me semble, revoir dans le roman. Il ajoute du mystère et un peu de folie bienvenue dans cet univers contrit. Il me semble aussi que le personnage de Marguerite est à exploiter, plus encore que le précepteur, comme un pendant prolétarien, disons, à Clarisse. La route de ces deux femmes doit se croiser, si je déduis bien de ce que j'ai lu. Et pas qu'une fois. De même, vous me semblez au point avec les techniques de la photographie. Grand Dieu, que de précision dans la façon dont Clarisse pratique cet art. M'est avis que vous devez vous en sortir pas mal avec ces appareils. Je me trompe? Pour ma part, je n'y entends rien. En somme, j'attends la suite avec impatience et il faudra à l'issue qu'on se rencontre. Ce texte est parfaitement publiable et si la suite est aussi bonne, je peux vous recommander à mon éditeur qui cherche des autrices pour une nouvelle collection, ou bien le faire paraître en épisode dans un journal. Là aussi, je connais un peu de monde que cela devrait contenter. Surtout, écrivez-moi vite. Émile.
C'est la dernière lettre de cette correspondance. Jeanne n'a pas répondu. Devant son silence, il apparaît qu'Émile s'est déplacé jusqu'à Orléans, sans doute pour la rencontrer, en savoir plus. Mais en vain. Sur la copie carbone, Émile a ajouté au crayon « Elle a déménagé et n'a pas laissé d'adresse ». Jeanne Le Chat n'a pas été trop difficile à retrouver. Elle a fait paraître l'année de la mort d'Émile, en 1962, un livre de photographies et de textes où elle raconte ses voyages. Afrique du Nord, Jordanie, Syrie, Irak, puis Iran, jusqu'en Inde. Et puis plus tard, la Chine et le Japon, la Corée, juste avant la guerre, et son retour en France, pendant quelques années. Elle voulait repartir encore, mais une blessure au pied mal soignée l'en a empêchée. Grâce à Internet, j'ai retrouvé un descendant de Jeanne Le Chat, qui m'a confié que, de mémoire familiale, Jeanne avait un caractère affirmé et des réactions qui parfois pouvaient être brutales. Mais qu'elle avait dans la voix quelque chose d'exalté, qui faisait que, lorsqu'elle racontait ses aventures, tout le monde l'écoutait. Une légende dit même qu'elle est entrée dans la Mecque, ce qui est interdit quand on n'est pas musulman, après s'être fardé le visage. Jeanne avait appris l'arabe. Cet événement est plausible, mais elle n'en fait pas mention dans son livre. Son descendant m'a aussi montré des photos qu'elle avait prises. Il en avait en pagaille, et après que je lui ai parlé de sa correspondance avec Émile Poirier, il a décidé de faire connaître l'œuvre de cette arrière-grande-tante fantasque et plutôt bonne photographe. Quant à Émile, il a dû se dire que le texte de Jeanne valait quand même quelque chose et il a achevé le roman qu'elle avait commencé. Un roman écrit à quatre mains dans les années 20, ce n'est pas fréquent. Mais aucun éditeur n'a accepté de le faire paraître. Celui d'Émile ne voulait pas de cet inconnu et exigea qu'Émile signe seul. Celui-ci refusa et fit paraître à compte d'auteur le livre qui ne fut tiré qu'à une cinquantaine d'exemplaires. La Bibliothèque nationale ne le possède pas, Émile ne l'ayant pas déposé. Quant à Anne, qui vous a lu la partie féminine de cette correspondance, elle regrette d'avoir tout bazardé. Dans les dernières affaires qui lui restent de cet aïeul dont elle ignorait tout, elle a retrouvé quelques photos, des pages de notes presque illisibles et une lettre d'amour inachevée.